autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour nous interroger sur des connexions invisibles, d'étranges et secrètes alliances à l'œuvre sous la forêt depuis des centaines de millions d'années entre les arbres et les champignons. Pourquoi les arbres, ces géants immobiles, ont-ils fait un pacte avec les champignons, ces êtres microscopiques aux pouvoirs étonnants? Comment communiquent-ils entre eux en réseau? Et que pouvons-nous apprendre d'une telle symbiose en sous-bois en compagnie d'un des spécialistes mondiaux de la forêt, le biologiste et mycologue Francis Martin de l'INRA. C'est lui qui a découvert comment les arbres et les champignons communiquent. Sous la forêt, pour survivre, il faut des alliés. C'est le titre de son ouvrage inspiré et inspirant. Autour de la question, quelle alliance invisible est à l'œuvre sous la forêt? Bienvenue. Bonjour Francis Martin.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour rendre visible l'invisible, c'est un peu ça, hein ?
C'est ça. On va aller vers l'infiniment petit.
L'infiniment petit sous la forêt. Sous la forêt, c'est le titre de votre ouvrage qui vient de paraître donc aux éditions Humaine Science. Vous êtes biologiste mycologue, directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique à Nancy, tout près de la forêt des Vosges. Vous êtes l'un des spécialistes mondiaux de la forêt, car vous êtes un pionnier, Francis Martin, un pionnier de l'étude des interactions entre les arbres et les champignons. Vous avez découvert comment ils communiquent entre eux, ce qui vous a, entre autres, valu les lauriers de la recherche de l'INRA pour vos travaux. Aujourd'hui, vous êtes directeur scientifique du laboratoire d'excellence Arbre, et pour cause, car ce qui vous anime depuis plus de 30 ans, c'est de mettre à jour quoi, le fonctionnement intelligent, si j'ose dire, des arbres en lien, en symbiose avec les champignons.
C'est comprendre la biologie des arbres, le fonctionnement des arbres, ces organismes majestueux qui forment les forêts, et c'est comprendre l'interaction, le dialogue entre ces arbres et tout un cortège de microbes, d'organismes invisibles qui sont les champignons. Comment ces deux mondes vivants, arbres et champignons, dialoguent, communiquent, coopèrent, parfois se battent, se combattent. C'est vraiment l'objet des questions qu'on se pose dans notre équipe depuis plusieurs dizaines d'années maintenant.
Et des questions que vous pouvez mettre en lumière ou éclairer grâce aux nouvelles techniques de biologie moléculaire d'abord, puis de génomique, de métagénomique, dont vous êtes vraiment un des pionniers.
Les techniques ont considérablement évolué ces 20 dernières années. Quand on faisait de la microbiologie il y a 20 ou 30 ans, on usait beaucoup de la microbiologie pastorienne, c'est-à-dire isoler les microbes, les micro-organismes, les cultiver sur des milieux synthétiques afin d'étudier leurs propriétés. Mais à peine 10% des micro-organismes sur notre planète sont cultivables, sont donc soumis à cette microbiologie que Pasteur utilisait déjà il y a plus de 150 ans. Ce qui a complètement changé, c'est qu'avec les outils de la génétique et de la génomique, c'est-à-dire séquencer l'ADN constituant le patrimoine génétique de ces micro-organismes, on peut inventorier ces micro-organismes, quel que soit l'objet étudié, le sol, l'intérieur des tissus de l'arbre, la feuille. On peut vraiment identifier les micro-organismes, les microbes qui sont présents, et surtout les comptabiliser, faire de la démographie des micro-organismes.
Des micro-organismes de ces arbres que vous appelez d'ailleurs des arbres-mondes, c'est ça, hein, des sortes d'écosystèmes.
Bien sûr, évidemment, quand on se promène en forêt, en tout cas moi je suis impressionné par la beauté de ces organismes que sont les arbres, souvent gigantesques, souvent séculaires. Mais on oublie souvent que sur ces arbres vivent une multitude d'organismes, des animaux, bien sûr, hein, les oiseaux, les insectes, mais aussi des micro-organismes qui vont vivre sur la surface des feuilles, sur la surface de l'écorce, sur la surface des racines. Pour certains, pénétrer à l'intérieur des tissus de la plante. On comptabilise au moins 100 à 200 espèces de micro-organismes, bactéries ou champignons qui vivent à l'intérieur des différents tissus de l'arbre. Ce sont les racines, ce sont les tiges, ce sont les feuilles. Donc c'est un univers, il n'y a pas simplement les cellules de l'arbre, il y a les cellules de l'arbre en interaction permanente, en dialogue permanent avec les cellules des micro-organismes présents, champignons, bactéries, même des virus.
Et vous avez mis en lumière, découvert comment tous ces micro-organismes, en tout cas les champignons, communique avec les arbres.
Parce qu'il y a un vrai réseau de communication. En tout cas, on s'est focalisé sur une de ces interactions qui est l'interaction qui associe les racines des arbres avec certains champignons du sol. Alors, ces champignons, on les connaît. La plupart des auditeurs vont en forêt, ramassent à l'automne des chanterelles ou des cèpes. Certains, s'ils ont un chien, peuvent ramasser des truffes. Ces champignons, en tout cas pas ce que l'on ramasse, qui est le fruit d'un réseau souterrain de filaments microscopiques, mais les filaments microscopiques sous le sol interagissent avec les racines des arbres pour former une symbiose, une interaction à bénéfice mutuel, où chacun des deux partenaires va tirer bénéfice de l'interaction. D'un côté, les filaments microscopiques du champignon ou des champignons associés aux racines vont explorer le sol, absorber les éléments nutritifs, les micro-éléments, l'azote, le phosphate, indispensables à la croissance de la plante, transférer ces éléments à la plante, et en retour, pour, si je peux utiliser l'image, pour rétribuer ce travail de mineur et de prospecteur que réalisent les champignons, la plante va rétribuer ce travail sous forme de sucre. Donc on a un échange gagnant-gagnant. Le champignon transfère depuis le sol vers la plante les éléments nutritifs indispensables à la croissance de l'arbre. Et en échange, l'arbre va donner les sucres qui sont le combustible du champignon et qui lui permettent de se développer dans le sol. Donc on a bien deux organismes interagissant de façon coordonnée.
Et tout ça, ça fonctionne depuis des centaines de millions d'années. Je vous propose, Francis Martin, de commencer entre les racines de ces arbres-monde, justement, par un petit tour d'horizon sonore sous la forêt, exactement. C'est le mix En sous-bois de Léo Gonzalez, et c'est un autre homme-forêt, si j'ose dire, qui ouvre la marche, le botaniste Francis Allais.
Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse.
De toute évidence, si on veut comprendre quelque chose aux arbres, il faut abandonner notre temps humain.
Mais c'est un monde qui est tellement différent, qui nous paraît inerte, alors qu'il ne l'est pas du tout.
S'il n'y avait pas de champignons, est-ce qu'il pourrait même y avoir des forêts ?
Les plantes sont des êtres les plus éloignés, les plus différents de nous. Elles sont assez mystérieuses.
On sera surpris d'une biche qui traverse la route devant nous, alors qu'on ne regardera même pas les arbres qui constituent la forêt dans laquelle elle vit.
Il n'y aurait pas d'arbres s'il n'y avait pas de champignons dans le sol de la forêt.
Et c'était quoi comme champignons au fait ?
Je sais pas, j'y connais rien en champignons.
Une cuillerée de terre peut contenir plusieurs kilomètres de mycorhizes qui forment l'internet de la forêt.
Un réseau qui prouve à nouveau l'intelligence de ces arbres, capable de suivre une stratégie.
Tout ici pousse en silence. Et quand on y pense, petit à petit tout prend son sens.
Tout ici pousse en silence et dans le sous-sol, sous la forêt, pour reprendre le titre de votre livre. Francis Martin, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre. Vous avez peut-être reconnu Corinne Laine, botaniste,
oui,
chercheuse à l'INRA, et Emmanuel Ecochia, philosophe, qui nous apprenait, un des premiers, à regarder ces autres êtres vivants que sont les arbres.
Il y a deux choses à discuter, là. La première, c'est qu'effectivement, sans champignons, il n'y aurait pas d'arbres. Donc c'est une histoire qui remonte à plus de 300 millions d'années. On pense d'ailleurs même que les premières plantes qui ont colonisé les terres émergées il y a 450 millions d'années ont pu le faire grâce à ces champignons dits mycorhiziens. Mycorhiziens, ça veut dire mycèse, champignon, rhiza, racine. Donc ces organes chimériques constitués de filaments du champignon et de la racine.
Vous dites organes chimériques parce que c'est des organes qu'on ne voit pas, qui sont invisibles.
C'est des organes qui sont constitués à 50% de cellules du champignon et à 50% de cellules de la plante.
Des chimères.
Donc ce sont vraiment des chimères. Les deux organismes travaillent en coopération. On le disait à un instant, à partir de cette racine transformée par la présence du champignon, il y a un réseau, un internet de filaments microscopiques qui va prospecter le sol. Et l'absorption de ces éléments minéraux était fondamentale il y a 450 millions d'années. Parce qu'on ne réalise pas, mais il n'y avait quasiment pas de sol. Les plantes de l'époque étaient minuscules, elles faisaient 2 ou 3 millimètres de hauteur. Elles n'avaient ni racines ni feuilles. C'était un monde extrêmement difficile. Et c'est grâce à l'interaction avec les champignons que ces plantes ont pu coloniser les continents. Et 50 millions après, ces plantes avaient une taille tout à fait raisonnable, les sols étaient importants, et il y a 300 millions d'années, les premiers arbres sont apparus. Mais pour survivre dans ce monde extrêmement difficile, il leur fallait tresser une alliance, un pacte avec ces champignons. Et depuis, tous les arbres sur notre planète, quasiment toutes les plantes, vivent en interaction avec ces champignons.
Et si on pousse, je veux dire, le bouchon un peu plus loin sous la forêt, nous ne serions pas là s'il n'y avait pas les champignons.
Je pense que les bactériologistes diraient s'il n'y avait pas de bactéries, il n'y aurait pas d'arbres. Mais je crois que c'est important de souligner que les paysages que l'on connaît aujourd'hui, les savanes, les prairies, les forêts, seraient certainement très différentes si les plantes dans ces écosystèmes n'interagissaient pas avec les champignons.
Et vous posez une question, c'est le premier chapitre même de votre livre, une question à laquelle je n'aurais pas su répondre avant de le lire, c'est quel est le plus grand organisme vivant sur Terre ? Réponse, Francis Martin.
L'armillaire couleur de miel.
Un champignon.
Un champignon.
Qui est le plus grand ?
En tout cas, la partie souterraine de ce champignon, qui fait probablement 2500 tonnes.
2500 tonnes.
Oui, c'est-à-dire au moins le poids d'une dizaine de baleines franches. Alors, les chiffres sont toujours discutables, c'est quand même difficile à apprécier, hein. Mais il faut au moins 2500 ans et il couvre une dizaine de kilomètres carrés dans une forêt du Pacifique américain.
L'armillaire couleur de miel, c'est magnifique en plus.
Joli champignon, joli nom, mais en réalité c'est un prédateur, c'est un champignon pathogène qui se développe donc dans le sol, sous les feuilles, dans la litière, sous forme de cordons, un peu comme des fibres, des câbles qui se propagent d'arbre en arbre, et aussitôt qu'il entre en contact avec un arbre, ce champignon qui n'est pas un champignon symbiotique, c'est dans ce cas c'est un champignon pathogène, il va croître, pousser entre l'écorce et le tronc et empêcher l'arbre de fonctionner correctement, le mener vers sa mort, et les arbres morts vont lui servir de nourriture.
Parce que vous expliquez bien qu'en gros, il y a trois guildes, trois grandes familles de champignons, les symbiotes, les décomposeurs et les parasites. Pour le dire très simplement, vous le faites vous-même dans votre ouvrage, Francis Martin, il y a le bon, la brute et le truand.
Dans je pense que c'est une image assez juste. Alors, évidemment, c'est toujours difficile de créer des catégories. On a, la plupart des champignons symbiotiques sont des bons champignons. Parfois, il peut leur arriver d'être prédateurs et parasites. De prendre un peu trop de place. Mais on considère qu'effectivement, en forêt, on a ces trois grandes associations, trois grandes compagnies de champignons. Les symbiotiques, qu'on a mentionnés, qui vont permettre à la plante de vivre, de pousser, de survivre contre les agressions. Les décomposeurs, que j'appelle les brutes, eux, ils ne s'embarrassent pas de dialogue avec les plantes, ils se contentent de se nourrir de la matière morte, des débris, les branches, les brindilles, les feuilles mortes qui tombent sur le sol à l'automne.
Indispensables décomposeurs.
Ils vont participer au grand recyclage de la matière organique, moi je les appelle aussi les fossoyeurs, sans eux on serait submergé de détritus. Et puis il y a les prédateurs, les truands, ceux qui vont attaquer la plante, attaquer l'arbre, pénétrer dans les feuilles, parasiter, se nourrir sur l'arbre sur pied et les dévorer pour consommer le sucre qui constitue ces plantes et ces arbres. Donc trois grands groupes de champignons, j'avoue que les forestiers préfèrent les bons, les champignons symbiotiques, qui sont parfois utilisés dans certains programmes de reforestation pour stimuler la croissance des plantes, permettre la survie des jeunes plantules, éviter qu'elles soient trop stressées par la sécheresse.
Donc, d'où l'intérêt, on y viendra hein, bien sûr pour préparer les forêts du futur et voir comment arbres et leurs alliés champignons peuvent s'adapter au changement climatique à venir.
Voilà, essayer de contrôler cette symbiose à bénéfice mutuel entre les champignons et les plantes, pour le bien des arbres, mais aussi pour le bien des forestiers qui les cultivent.
Autour justement de la question de cette alliance invisible sous la forêt entre arbres et champignons, nouvelle question tout de suite pour vous, Francis Martin, soulevée par Mathieu Novak du mensuel Science et Avenir.
Quel est le rôle de la vie souterraine sur le maintien de la diversité au-dessus de la Terre ?
Votre réponse, Francis Martin.
Alors déjà, il faut réaliser que dans un gramme de sol forestier, il y a au moins un millier d'espèces de champignons différentes, probablement 50 000 espèces de bactéries et encore plus de virus. Donc ce gramme de sol que vous allez prélever en forêt, c'est déjà une diversité extraordinaire. Et ces micro-organismes vont vivre en association permanente avec les arbres. Si on multiplie le nombre d'espèces d'arbres, on va multiplier le nombre d'espèces de champignons. On considère qu'avec associé à un arbre, on a 200 à 250 espèces de champignons symbiotiques. Donc en multipliant les espèces d'arbres, on va multiplier cette diversité de champignons présents en forêt. Dans la forêt guyanaise, où il y a 1700 espèces d'arbres, dans la forêt tropicale amazonienne, où on peut aller avoir jusqu'à 60 000 espèces d'arbres différents, chacun de ces arbres va être associé à des centaines de champignons symbiotiques, colonisés par des dizaines de champignons pathogènes. Donc en fait, ces arbres sont le substrat d'une diversité assez extraordinaire. Quand on simplifie ces écosystèmes forestiers, quand on fait de la monoculture, par exemple de peupliers, ben là on va avoir un cortège de champignons et de micro-organismes associés beaucoup plus réduits.
Et tout ça, c'est un monde invisible, parce que nous, quand on parle champignons, quand on va se promener en forêt, on parle des champignons qu'on voit, et les champignons qu'on voit, c'est quoi? C'est le sexe des champignons, en fait, Francis Alors,
prenons
Martin,
la, prenons
c'est
la, ça la fameuse Amanite tumouche, le champignon iconique qu'on retrouve dans tous les livres d'enfants, qu'on retrouve quasiment, il n'est pas exactement identique, mais qu'on retrouve sur la couverture de Tintin, l'île noire, c'est-à-dire le chapeau rouge avec ses taches blanches. Effectivement, ce qu'on observe
c'est
là,
méchant,
le
celui-là.
Pied et le chapeau, c'est une structure mise au point par les champignons pour pousser le plus haut possible et diffuser les spores qui sont présentes sur les lamelles, les structures qui sont présentes sous le chapeau. Donc l'objectif, la nature a inventé le champignon, le chapeau de champignon, pour favoriser la dispersion du patrimoine génétique de ces organismes vivants.
Mais c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg.
Ça représente moins de 1% de la masse totale des champignons, et ce qui est vraiment utile et qui représente l'essentiel de la vie d'un champignon, c'est un tapis de filaments microscopiques, un feutrage, qui vit sous le sol, sous les feuilles mortes. Dans les 10-15 premiers centimètres du sol se développent des centaines de réseaux, de centaines d'espèces de champignons différents. On mentionnait qu'un chêne, centenaire, il a probablement 250 espèces de champignons différents associés à ses racines. Ben imaginez que chacune de ces espèces de champignons, chacun de ces types de champignons, va développer son propre réseau dans le sol à partir des racines et interconnecter les racines des différents arbres et former cet internet qui va relier les différentes parties de la forêt.
On essaye d'imaginer ce réseau souterrain, cet internet, en écoutant « Je suis la forêt » du groupe Septembre sur RFI.
Je suis la plus belle, je suis la plus grande, érigée dans un monde parallèle. Je ne suis jamais loin, non, jamais vraiment loin de toucher le ciel. Je suis ton air, ton toit, écoute le silence, c'est là que tout commence. Je suis la forêt, si tu es le souffle coupé, viens respirer dans mes bras. Je suis la forêt, tu sais où me trouver, moi je reste planté là. Je suis la forêt. Vous voir laisser vos initiales avec un cœur autour. Je dois l'avouer, ça m'a fait mal, mais j'aime arborer cet amour. Je suis ton air, je suis ton toit, ton abri, ton repère, ton autre chez toi. Je suis la forêt, si tu es le souffle coupé, viens respirer dans mes bras.
Je suis la forêt, le groupe Septembre sur RFI. Nous sommes en compagnie d'un des spécialistes mondiaux de la forêt, le biologiste et mycologue Francis Martin de l'INRA, qui nous emmène en territoire inconnu, sous la forêt. C'est le titre de votre ouvrage, pour y découvrir un univers insoupçonné et intelligent qui fonctionne en réseau. La vie secrète des arbres n'a plus de secret pour vous, Francis Martin. Vous êtes un pionnier de cette recherche sur la communication et la symbiose entre arbres et champignons. La vie secrète des arbres est aussi, désormais, un peu mieux connu du grand public, grâce notamment au best-seller du garde forestier allemand Peter Wollenberg, dont les observations ont été confirmées par d'autres chercheurs de l'université British Columbia au Canada, extrait d'un documentaire sur l'intelligence des arbres.
En orientant mes recherches vers l'observation de la partie souterraine des arbres, je me suis aperçu que leurs racines s'entremêlent et se connectent entre elles.
Ce que nous appelons arbre n'est que la partie visible au-dessus du sol. Mais la plupart de sa vie se passe au sous-sol. Une cuillerée de terre peut contenir plusieurs kilomètres de mycorhizes qui forment l'internet de la forêt.
Le réseau fongique est juste sous la surface du sol. Nous nous sommes rendus compte que tous les arbres entremêlaient leurs racines en un immense réseau souterrain commun à tous. Nous avions découvert les bases d'un langage végétal élaboré.
Un langage végétal élaboré. Francis Martin, j'ai envie de vous demander si on n'est pas passé un tout petit peu d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire les arbres, les plantes, on se soucie à peine de savoir s'ils étaient vivants. Aujourd'hui, grâce à vos découvertes, grâce à de nombreux chercheurs, penseurs, philosophes, on découvre cette autre manière d'habiter la Terre, d'être en vie, ces arbres, cette forêt. Mais du coup, on parle de langage élaboré pour la communication entre arbres et champignons. Est-ce qu'on pousse pas un peu trop loin le bouchon?
Bien sûr. C'est-à-dire que l'ouvrage « La vie secrète des arbres », le film qui l'a accompagné, je trouve qu'il y a eu un très bon côté, parce que de vraiment populariser cette vision de la forêt a permis à de nombreux auditeurs ou spectateurs de réaliser que sous terre, il y avait un réseau de champignons symbiotiques qui interconnectait toutes les plantes et tous les arbres. C'est important. Il y a 5 ans, quand je disais mycorhize, les gens me regardaient avec des yeux ronds. Donc là, au moins, la plupart des auditeurs, en tout cas, sont au courant maintenant qu'il y a ces interactions complexes au niveau du sol. Alors, l'inconvénient de ces ouvrages, c'est qu'ils sont parfois un peu trop anthropomorphiques. C'est-à-dire que les arbres, les plantes sont sans aucun doute des organismes, sont des organismes sensibles dont les mécanismes de fonctionnement intime cellulaire sont très proches de ceux des humains. Mais malgré tout, de là à parler d'un cerveau dans les racines des arbres, de parler d'intelligence cognitive comme les humains, je pense que là on va un peu loin. En tout cas, les scientifiques ne peuvent pas se permettre d'aller aussi loin parce qu'on n'a pas les preuves expérimentales. Pour nous autres scientifiques, il faut des preuves que les observations soient reproductibles à travers la planète dans les différents laboratoires. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les arbres sont capables de respirer, de se nourrir, de souffrir, mais aussi ils ont une sensibilité, c'est-à-dire qu'ils sont capables de percevoir la lumière, de percevoir leurs voisins, ils ont un toucher. Ils ont un ensemble de récepteurs qui se rapprochent de ceux des humains pour voir, sentir, toucher.
Voir, sentir, toucher, ce sont des êtres vivants. Et comment ils communiquent, justement? Alors, comment ils communiquent?
Ils peuvent communiquer. Donc, ils ont établi un dialogue et les outils et les mécanismes pour dialoguer entre eux. Donc, les arbres parlent aux autres arbres, ou en tout cas à leurs congénères au sein du même MSS, par différents types de molécules. On en connaît au moins 2, soit sous forme de molécules diffusibles, gazeuses, qui vont être échanger dans l'atmosphère présente entre 2 plantes. Et en particulier, on connaît une molécule qu'on appelle l'acide jasmonique, qui est une hormone, une molécule d'alerte. Quand une plante est blessée, attaquée, broutée par une chenille ou par un insecte, cette molécule est libérée lors de l'attaque, de la blessure que subit la plante. Et cette molécule va diffuser au sein de la feuille, au sein de la plante, pour informer de la présence d'un prédateur des autres parties de la plante, et lui permettre de mettre en place des réactions de défense. Et parfois, ces molécules sont capables de diffuser jusqu'à la plante voisine, à quelques dizaines de centimètres.
De prévenir la plante voisine. Ça a été montré pour des acacias,
pour des plantes tomates. Mais là, il faut que je mette en garde.
Oui, oui.
Parce qu'en fait, ces interactions sont démontrées, mais souvent dans des conditions du laboratoire. On ne sait pas du tout si elle joue un rôle aussi important dans les conditions naturelles, quand il y a plusieurs dizaines d'espèces d'arbres, plusieurs centaines d'espèces de champignons qui sont présentes. Donc les plantes peuvent communiquer par le biais de ces molécules gazeuses, diffusibles. Il semblerait qu'elles puissent aussi communiquer par le biais de petites protéines, des peptides qui ressembleraient à nos hormones circulantes dans notre système sanguin et qui seraient capables de circuler dans cet internet fongique.
Internet fongique, oui.
Qui lie les arbres les uns aux autres. Oh.
En réseau, du coup, j'ai envie de vous demander aussi, Francis Martin, si aujourd'hui on arrive à comprendre qu'il y a de manière souterraine un réseau, un internet de communication, est-ce que c'est pas aussi parce que nous, les hommes, on fonctionne beaucoup en réseau aujourd'hui, en tout cas on comprend mieux ça, on arrive à l'imaginer pour d'autres êtres vivants comme les arbres
peut-être,
et
peut-être bien,
la forêt.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a bien des réseaux sociaux qui lient les plantes aux autres plantes, qui lient les plantes aux micro-organismes, on l'observe, on peut le reproduire au laboratoire, on peut apporter sur les racines un certain nombre de champignons, on peut contrôler l'interaction, la mise en place de la symbiose entre les deux partenaires, et au bout de quelques semaines, on voit se répandre, se diffuser dans le sol, à partir des racines colonisées, de la mycorhize, de la racine symbiotique, on voit bien ces filaments microscopiques se propager dans le sol. Et s'il y a une plante voisine, on voit que ce réseau mycélien, cet internet, va coloniser le système racinaire de la plante voisine. Donc il y a bien des connexions qui existent entre ces plantes. On a même démontré qu'il y a des échanges de sucres qui peuvent circuler entre les
plantes. Grâce à ce réseau de champignons.
Circuler, voilà. Alors par contre, ça c'était démontré, c'est confirmé. Par contre, dans la forêt, dans les conditions naturelles, là où il y a plusieurs dizaines d'espèces d'arbres, des arbres qui ont des centaines d'années, avec des milliers d'espèces de champignons, qu'en est-il? On ne le sait pas.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de bruit pour la communication?
Il y a probablement trop de bruit, on est incapable de décrypter, de décortiquer la complexité de ces réseaux. Ce n'est plus un réseau Internet, c'est des dizaines, voire des centaines de réseaux Internet fongiques qui interagissent entre les plantes et les champignons dans ces systèmes très complexes. Et aujourd'hui, les outils ne nous permettent pas d'aller observer dans ces conditions naturelles de la forêt. C'est trop compliqué.
Et est-ce que on pourrait dire que à chaque forêt ses alliances, à chaque arbre son champignon? Vous qui travaillez dans la forêt des Vosges, qui avez travaillé jusque dans la forêt en Arctique, qui êtes aussi parti, on y viendra peut-être, jusqu'au dans la forêt tropicale, est-ce qu'à chaque type de forêt, chaque type d'arbre, il y a son type de champignon, d'alliance, de réseau? Est-ce qu'on peut dire
on peut le dire. En fait, on observe des champignons qui sont communs à toutes les espèces d'arbres, qu'il s'agisse du chêne, du frêne, du hêtre, des pins, on va retrouver parfois certains champignons, souvent qu'on appelle généralistes, des champignons qui apparaissent sur le système racinaire très tôt lors du développement des plantes et qui vont rester sur ces plantes pendant plusieurs dizaines d'années. Et on retrouve à peu près les mêmes champignons un petit peu partout. La manite tue-mouche est un bon exemple. La manite tue-mouche avec son chapeau rouge et ses points blancs va se retrouver sur différents types d'arbres. Elle n'est pas très exigeante. Elle va pouvoir travailler coopérer avec un chêne, coopérer avec un pin, coopérer avec un épicéa. Par contre, d'autres champignons sont beaucoup plus exigeants. Ils vont établir des connexions, établir une coopération, établir une symbiose avec un nombre très restreint d'arbres. On connaît les lactaires, par exemple. Si vous êtes mycologue et mycophage, vous allez retrouver le lactaire de l'épicéa, le lactaire du bouleau, le lactaire du chêne. Et là, ces interactions sont extrêmement spécifiques. À une espèce de lactaire sera associé un seul type d'arbre.
Autour de la question quelle alliance invisible et secrète se noue sous la forêt et jusque sous les forêts tropicales du Gabon, on écoute Ma Forêt, chantée par Pierre Akanenge sur RFI.
Qui me livre à moi le bien, le mal?
La forêt,
c'est le livre qui te livre à toi le sursaut vital. Matière, des fruits, des fleurs, oiseaux, fées, primates et petits poissons dans l'eau, la clé du bonheur.
Ma forêt, ma forêt, ma forêt,
ma forêt.
c'est pas normal. Poliarno, passeur de fléau, c'est immoral. Plein de fumée noire en pleine forêt.
Ma forêt, celle de Pierre Akendengue sur RFI. J'ai envie de dire que c'est un peu aussi votre forêt, Francis Martin, parce que vous êtes un chercheur, vous travaillez évidemment en laboratoire à séquencer pour essayer de comprendre la communication entre les arbres et les champignons, mais vous menez vos recherches en tant que naturaliste aussi sur le terrain, et vous êtes même allé dans la forêt tropicale du Kenya, je crois.
Oui, on a la chance dans notre laboratoire, en travaillant sur ces champignons. Évidemment, on passe beaucoup de temps derrière nos ordinateurs à traiter des jeux de données massifs issus du séquençage du génome de ces champignons ou des arbres qui leur sont associés. Il faut avouer que c'est quand même une très grande partie de notre activité aujourd'hui. On a une équipe d'une quarantaine de personnes. Les trois quarts des chercheurs qui sont présents dans cette équipe travaillent sur l'analyse des génomes ou sur l'inventaire moléculaire de ces champignons. Mais en tant que microbiologiste et mycologue, tous les ans, on effectue des expéditions sur le terrain. Alors ces expéditions à la recherche des champignons, leur identification, leur récolte, leur échantillonnage, peut se faire dans le massif du Donon, dans la forêt vosgienne, à quelques dizaines de minutes, à 45 minutes de notre laboratoire. Mais on essaye d'inventorier également la diversité des champignons à travers la planète. Donc on a plusieurs programmes actuellement en coopération avec des équipes internationales.
Oui, vous travaillez beaucoup avec des chercheurs partout.
Quasiment toutes les équipes de l'INRA aujourd'hui travaillent au niveau international avec des laboratoires dans les différents pays du monde, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique. Et nous, on a eu la chance de pouvoir expérimenter et échantillonner sur l'île de la Réunion, dans la forêt boréale de l'Alaska. Actuellement, je fais pas mal d'expéditions dans la province du Yunnan en Chine. L'objectif, c'est d'aller inventorier ces espèces de champignons qu'on ne connaît pas encore. On a inventorié 100 000, on a donné un nom à 100 000 espèces de champignons, et on sait aujourd'hui, grâce aux outils moléculaires, grâce aux inventaires moléculaires, que leur nombre est probablement autour de 3 millions à 5 millions d'espèces. Donc la quasi-totalité des espèces de champignons de la planète
sont encore inconnues. Et est l'intérêt pour nous, pour nous, de mieux les connaître? C'est pour leurs propriétés, comprendre ce fonctionnement-là, cette autre manière de coopérer.
Il y a un intérêt, évidemment, toujours l'intérêt académique, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre la diversité du monde des champignons, mais évidemment qu'il y a des retombées, parce que ces champignons sont producteurs de molécules qui peuvent sauver des vies. Les statines, anticholestérol, utilisées par une grande majorité, par un grand nombre de nos auditeurs, sont les métabolites secondaires issus des champignons. Donc en fait, en explorant cette diversité des champignons et des autres microbes, on a à notre disposition un nombre impressionnant de médicaments pour le futur.
Et pas seulement de médicaments, parce que vous consacrez aussi un chapitre sur les traces des truffes, les truffes cachotières dont les secrets sont bien gardés. Les truffes, c'est aussi un champignon qui depuis toujours intéresse énormément les humains.
Oui, avec ces outils moléculaires, on peut suivre la démographie des champignons. Bien entendu, on peut le faire dans la forêt boréale d'Alaska, on peut le faire dans la forêt de l'île de la Réunion, on l'a fait dans les forêts du Kenya, mais on continue à inventorier la diversité des champignons dans les écosystèmes français, que ce soit les forêts de chênes ou de hêtres, mais également un écosystème qui est tout à fait particulier, qui est la truffière. Alors qu'est-ce qu'une truffière? Finalement, une truffière, c'est un verger où on a planté des noisetiers et des chênes inoculés par un champignon bien précis qui est la truffe noire du Périgord ou la truffe noire de Bourgogne ou maintenant même la truffe blanche du Piémont. Et dans ce cas-là, le scientifique ou le trufficulteur joue le rôle d'entremetteur. Il va mettre en présence les filaments microscopiques de la truffe, une purée de truffe, au contact des racines. Et là, en quelques heures, le champignon truffe va reconnaître les racines, les petites racines qu'on appelle les radicelles du noisetier ou de son chêne hôte. Et là, va développer la symbiose, cet organe chimérique qu'on appelle la mycorhize. Et ça, on est capable maintenant de produire des jeunes plants de noisetier ou des jeunes plants de chêne qui sont mycorhizés, à 99%, c'est-à-dire que quasiment toutes les racines des jeunes plants, des jeunes arbres, sont en symbiose avec le champignon. Et ce sont ces jeunes plants qui sont transplantés dans le verger à truffes. Et là, une fois sur deux, ça marche, une fois sur deux, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on est bien capable de maîtriser le début du processus de l'interaction symbiotique entre l'arbre, noisetier, chêne et la truffe. Après, la nature reprend ses droits, c'est-à-dire que d'autres champignons peuvent venir déplacer du système racinaire, des radicelles, la truffe qu'on a implantée. D'autres truffes, sans intérêt, peuvent coloniser la truffière et coloniser le système racinaire. Donc pour nous, c'est extrêmement important de comprendre comment cet écosystème fonctionne. Comment la truffe qu'on a inoculée sur l'arbre peut persister, se disséminer de racine en racine, d'arbre en arbre, pour un jour produire les truffes qui sont récoltées et consommées. Et en fait, ça reste extrêmement compliqué. On ne comprend pas bien aujourd'hui pourquoi certaines truffières vont produire, ou les arbres en interaction avec les truffes vont déclencher le processus qui permet la formation des truffettes qui donneront les truffes. Franchement, aujourd'hui, on ne maîtrise pas cette partie.
Ça reste encore mystérieux, ce qui se passe sous nos forêts. Heureusement, pourquoi avons-nous tant besoin de nos forêts? Je vous propose, Francis Martin, d'écouter l'astrophysicien Hubert Reeves, qui lui aussi passe beaucoup de temps en compagnie des arbres.
J'ai vécu au Canada toute mon enfance. Et donc je me suis beaucoup promené dans les forêts, c'est toujours été mon grand plaisir. Donc j'ai développé beaucoup de plaisir à marcher dans la forêt, ce qui, j'ai appris en japonais, a un nom. Et ce nom, je ne me souviens pas du nom en japonais, mais je me souviens de sa traduction, ça s'appelle « prendre des bains d'arbres ». Ça veut dire aller s'immerger dans la forêt, seul, avec seulement des arbres, et sentir leur présence. On la sent, on ne sait pas très bien comment, mais on la sent. Ça se sent, on sent qu'il y a un rapport avec les arbres. Les arbres, ils sont présents, vous pouvez continuer à rêver, à réfléchir, vous sentez qu'ils vous accompagnent. C'est comme prendre contact avec une autre espèce de vie, totalement différente de la nôtre, mais c'est quelque chose qui quand même nous parle, nous dit quelque chose.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, à vous les arbres, Francis Martin?
Franchement, je partage complètement ce qu'on vient d'entendre. Hubert Reeves décrit parfaitement, j'ai le même sentiment. Bien qu'étant scientifique, ayant été formé pour décrypter, décortiquer les mécanismes intimes de ces arbres, de ces organismes arbres ou champignons, quand je me promène en forêt, j'ai un sentiment de, je les vois comme des êtres sacrés. On est face à une autre forme de vie et qu'il faut complètement respecter.
Et vous partagez d'ailleurs cet émerveillement, le fait d'être scientifique, de comprendre un peu mieux leur fonctionnement, n'altère en rien cet émerveillement. Vous dites que les arbres sont sacrés, et d'ailleurs il y a beaucoup de symbolisme autour des arbres, d'endroits du monde, les arbres sont sacrés.
C'est une situation assez étonnante quand je rentre dans une forêt. Les premières secondes, je les vois, ces arbres, comme des entités sentientes, sensibles, des êtres une altérité, c'est-à-dire des êtres vivants qu'on ne comprend pas. Comme si on était face à des martiens, à des sélénites, et qu'on aimerait discuter. Et très rapidement, à cette vision presque sacrée de la forêt, je superpose des mécanismes biochimiques, des mécanismes génétiques. Donc en permanence dans mon cerveau, les deux visions se superposent.
Vous avez deux cerveaux dans ces cas-là. Hein.
Je ne sais pas, en tout cas c'est le même cerveau qui perçoit l'arbre en tant qu'être vivant sous ces deux formes, c'est-à-dire à la fois une forme magique. Il ne faut pas oublier que l'homme est issu des arbres. Il y a nos ancêtres, il y a 250 000 ans, sont descendus des arbres. Et pendant des centaines de milliers d'années, encore jusqu'à tout récemment, dans toutes les communautés humaines, les arbres étaient des dieux. des entités sensibles qu'il fallait absolument respecter. Et que c'est au cours du dernier siècle qu'on a commencé vraiment à massacrer les forêts, en tout cas pas les massacrer, mais les utiliser massivement.
À propos du respect que l'on doit à ces grands anciens que sont les arbres, nouvelle question pour vous, Francis Martin, soulevée par le philosophe Charles Pépin, qui était récemment notre invité.
J'ai vécu récemment une expérience très forte devant un olivier, c'était à Bordeaux, qui avait 2500 ans. Et j'ai eu l'impression, en touchant ce tronc de l'olivier, que je touchais un être qui était plus sage que moi. Est-ce que vous me confirmez dans cette intuition ?
Vous confirmez, Francis Martin ?
Je ne peux pas dire là. Je respecte complètement. Ça va un peu loin. Je respecte complètement ces organismes, ces arbres. J'ai insisté sur ça. Mmh. C'est-à-dire que je les considère comme des êtres qui sont plus anciens que l'humanité. Ils sont présents sur Terre depuis plus de 300 millions d'années. Dire qu'ils sont sages.
Vous dites quand même votre émerveillement face aux grands séquoias gigantesques qui, en plus, sont tout de même aujourd'hui menacés, eux aussi.
Oui. Des entités magnifiques, séculaires, qu'on doit respecter. De là à imaginer qu'ils soient sensibles, oui, on l'a dit, qu'ils soient cognitifs, non. Enfin, en tout cas, pas dans l'état actuel des connaissances. Peut-être qu'un jour, on découvrira la façon dont les arbres réfléchissent. Aujourd'hui, non. On sait qu'ils s'adaptent. Ils s'adaptent à l'environnement, ils vont devoir s'adapter à l'environnement changeant que l'homme est en train d'imposer, le changement climatique. On espère, en tout cas nous scientifiques, que les arbres vont être capables de s'adapter. On est parfois très inquiets, le changement est tellement rapide que les arbres pourront peut-être pas s'adapter.
En tout cas, pour survivre et pour s'adapter, il faut des alliés, c'est ce que vous dites, Francis Martin. C'est ce que dit aussi Grand Corps Malade, tout de suite sur RFI, coopération.
Qui veut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre, j'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute. Tout seul il s'ennuie, il stagne, il se perd. Il est pour son voisin le meilleur thérapeute. Il est pour ses prochains le plus fiable des repères. Parce que plus que jamais j'aime la force de l'équipe, la puissance du collectif, je l'ai vécu et j'y crois. Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques, je pense que chez l'homme, 1 plus 1 égale 3. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin.
L'esprit d'équipe comme un besoin, coopération de Grand Corps Malade sur RFI. J'avais envie de vous dédier ce morceau, Francis Martin, non seulement pour votre travail sur les arbres et les champignons, mais parce qu'aussi vous dirigez effectivement des équipes de chercheurs de par le monde qui ensemble peut-être vont plus loin.
Coopération, c'est un magnifique mot. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, en forêt, les organismes, on vient de le dire, en tout cas, pas toujours, mais souvent coopèrent. La symbiose, l'interaction à bénéfice mutuel est un mécanisme extrêmement important dans l'évolution des plantes, des animaux, des écosystèmes forestiers, des autres écosystèmes terrestres. Coopération est un mot-clé. Même si la prédation, la compétition restent très féroces, il y a des mécanismes coopératifs, des mécanismes symbiotiques qui permettent aux plantes, aux arbres, aux champignons de survivre et de s'adapter mieux et d'évoluer à travers les millions d'années. Mais coopération, c'est aussi effectivement un mot-clé pour les scientifiques aujourd'hui. Le scientifique dans sa tour d'ivoire, ça n'existe pas. de plus. On est tous en interaction au sein d'une équipe, chacun apporte son expertise, sa compétence, les différents laboratoires interagissent les uns avec les autres au sein de très gros consortia de plusieurs dizaines, parfois même plusieurs centaines de scientifiques. La coopération existe, oui, entre la France et les États-Unis, entre la France et la Chine, et dans les laboratoires. Le laboratoire, c'est un écosystème multiculturel.
Finalement, on découvre, ça fait partie aussi de l'avancée des connaissances aujourd'hui, qu'il y a des écosystèmes partout, finalement. Vous parlez d'arbre-monde. Sur quoi portent vos recherches maintenant, Francis Martin, sur l'adaptation, justement, de ces arbres-monde, de ces écosystèmes en coopération arbres-champignons, adaptation au changement climatique et au bouleversement à venir?
Il y a deux grands thèmes de recherche qui animent le consortium qui s'appelle Laboratoire d'Excellence Arbres. C'est plus de 260 scientifiques en Lorraine qui travaillent ensemble pour essayer de comprendre comment les forêts fonctionnent, comment les arbres fonctionnent, comment les forêts s'organisent et surtout comment les forêts vont s'adapter au changement climatique et aux changements environnementaux. Et pour ça, il faut coopérer. Il faut qu'il y ait des sylviculteurs qui travaillent avec des microbiologistes avec des écophysiologistes. Donc là aussi, le mot coopération, il est prégnant.
En réseau aussi.
On est vraiment en réseau pour essayer de comprendre comment la forêt va s'adapter. Il y a plusieurs scénarios. Il y a les scénarios catastrophistes. Si la température en France augmente de 4 degrés, probablement que les écosystèmes forestiers qu'on connaît aujourd'hui vont disparaître. Des espèces comme les hêtraies et les chênaies qu'on connaît si bien dans le nord-est de la France et dans l'Île-de-France ne supporteront pas des températures aussi élevées, les sécheresses répétées qui vont accompagner ces modifications drastiques du climat. Et on pense que là, les forêts vont migrer de 100 ou 200 km vers le nord. Dans un scénario plus optimiste, autour de 1,5 degré à 2 degrés, là on peut espérer, et les travaux en cours semblent l'indiquer, c'est que dans les forêts d'aujourd'hui, parmi les populations d'arbres, de chênes ou de hêtres aujourd'hui, existent déjà des individus dont le génotype, dont les caractéristiques sont adaptées ou s'adapteront, leur permettront de s'adapter à ces modifications forte, mais encore possible, du climat. À ce moment-là, dans ces forêts, un certain nombre d'individus vont pouvoir se développer, s'adapter. Le rôle du forestier va être d'accompagner cette adaptation des individus adaptés au changement climatique.
Pour survivre, il faut des alliés sous la forêt. C'est le titre de votre ouvrage, Francis Martin, qui vient de paraître aux éditions Humaines Sciences. Merci infiniment.
Merci, Caroline.
D'être venu en direct pour nous rendre visible l'invisible. Et ben, je conseille à nos amis auditeurs de lire Sous la forêt au pied d'un arbre, ça fera pas de mal.
Ce serait bien.
Merci et bon retour à Nancy.
Merci.
Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio avec Olivier Roux à la réalisation. Tania Tsikounas en coulisses. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs. Autour de la question, pourquoi la vie bat toujours en rythme avec Albert Goldbetter, pionnier lui de la chronobiologie et spécialiste des rythmes du vivant. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, le prochain journal, c'est dans un peu plus d'une minute.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.